Le grand témoin.
Bonjour et bon dimanche chez vous dans ce studio avec moi, Maître Richard Bondo Chimbombo. Il est avocat au barreau de Kinshasa depuis 1987 et président de l'ONG Avocats sans frontières depuis 1994. Maître Richard Bondo, bonjour.
Bonjour Madame Kelly.
Vous allez bien?
Je vais comme un chat.
Les activités?
Oui, les activités, c'est que, bon, sur le plan professionnel, les activités sont en dents de scie au rythme de l'économie nationale parce que, en tant qu'avocat, nous avons des clients qui éprouvent certaines difficultés, qui ont des ennuis financiers et la profession aussi en récent. Nous avons aussi, en tant que défenseur des droits de l'homme, nous avons des problèmes sérieux dans un pays où les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre sont légion. Et tout ça, ça nous amène à ne pas dire que tout est rose dans notre pays.
On développe ça tout à l'heure dans notre entretien. On va parler de votre passé, de votre parcours professionnel. Ça fait 27 ans que vous travaillez au barreau de Kinshasa et 20 ans comme président de l'ONG Avocats sans frontières. Vous êtes né à Kananga un certain 13 septembre 1957.
Oui.
Et c'est là où vous avez passé votre enfance? C'est
non,
là où vous avez grandi?
Malheureusement, je n'ai pas passé mon enfance là-bas parce que, je crois, un an après, mon père est allé à Dimbelenge avec ma mère, là où ils ont eu ma petite sœur, celle qui vient immédiatement après moi. Et puis, avec l'indépendance, les petites guerres fratricides, nous avons quitté Dimbelenge pour le sud Kasaï, comme on l'appelait dans le temps, et c'est là que j'ai commencé mon école primaire dans mon village, à Chilenge. De là, je suis allé aux humanités également à Chilenge, au collège Saint-Joseph de Chilenge, actuellement collège Ntitamanisha. C'est là que j'ai fini mes humanités commerciales. Et après les humanités commerciales, j'avais un oncle paternel à Bujumbura, et c'est lui qui me demandera d'aller là-bas
pour suivre
mes études universitaires. Et toujours avec ma jeunesse, je pensais qu'à partir de Bujumbura, je pouvais aller dans une université européenne. Mais néanmoins, je suis resté à Bujumbura et ça m'a plu. J'ai fini mes études.
Et pourquoi vous a proposé d'aller étudier à Bujumbura? Parce que l'université d'ici n'était pas fiable?
Non, c'est comme je disais, j'ai fini mes humanités avec un pourcentage très très élevé. Mais mon oncle paternel, qui n'avait pas d'autres neveux à Bujumbura, estimait qu'il était isolé et qu'un enfant qui était astreint aux études et qui se distinguait pouvait au moins être à ses côtés à Bujumbura.
Vous avez grandi dans quelles conditions au village avec
mes parents? Avec mes parents, je suis d'une famille des parents protestants. Mon père était enseignant dans une école primaire protestante, mais comme il enseignait à une longue distance de notre résidence, il avait préféré me faire inscrire chez les catholiques. C'est ainsi que j'ai commencé à l'école primaire Saint-Marc de Chilenge pour terminer mes études secondaires au collège Saint-Joseph, toujours chez les catholiques. Donc moi-même, je suis baptisé catholique alors que mes parents étaient protestants. Mon père étant enseignant, c'était parmi les gens de bien. Donc je n'avais pas eu des ennuis, par exemple, de payer le Minerval. Disons, je n'ai pas tellement souffert. Je ne dis pas que mon père était riche, c'était juste un enseignant. Et puis l'enseignant, à l'époque, c'était un monsieur. Donc je dis que j'ai vécu normalement dans ce qu'on peut appeler la pauvreté conviviale.
Quel est le meilleur souvenir qui vous a marqué pendant que vous grandissiez?
Le meilleur souvenir...
Ou le bon souvenir.
Le bon souvenir ou le meilleur, c'est que le jour où, après mes humanités, je veux au CO. Nous, à notre époque, on parlait du cycle d'orientation. Et quand j'arrive aux humanités, pour y accéder, on nous a fait passer un test. Et j'ai été le premier, à cette époque-là, devant plusieurs enfants qui venaient au collège, parce que c'était un collège un peu de renom dans la province. le collège Saint-Joseph de Tshilingué, avec des professeurs que notre curé faisait venir de Belgique, et puis quelques compatriotes qui venaient des universités de l'ISP Mbujimayi et de l'université de Lubumbashi et même de l'Ovanium. Donc on a connu un enseignement quand même recommandable et très appréciable, au point que même à l'université, certains de mes collègues qui venaient d'autres pays, parce qu'à l'université du Burundi, on avait plusieurs nationalités, les Burundais, les Rwandais, avec qui on était à l'université, et toutes les autres nationalités, me posaient souvent des questions, savoir si j'avais étudié au Zaïre.
Parce que vous épatiez les gens par votre intelligence?
Non, j'étais un peu le genre d'étudiant curieux. J'étais à la faculté de droit, mais j'étais tout le temps avec les économistes, les médecins, avec les littéraires, ceux qui faisaient les lettres, les belles lettres, la philosophie. Donc j'étais l'homme un peu de tout le monde, au contact avec toutes les masses, quoi, avec toutes les communautés. Donc j'étais un peu une coqueluche des étudiants zaïrois à l'époque, mais apprécié par d'autres nationalités.
Alors, maître Richard Bondo, vous êtes avocat. Oui. Vous avez fait des humanités commerciales. Généralement, oui. Les avocats préfèrent faire les études gréco-latines.
Oui, voilà, il y a un problème. Moi, au collège, nous avions deux sections. La section commerciale et administrative et la section littéraire. Mais quand je finis le cycle d'orientation, les autorités scolaires décident de m'orienter au commercial. Et c'est ainsi que j'ai fait la section commerciale et administrative.
Votre choix, c'était les humanités et
oui, moi, je voulais aller à la littéraire. Quand moi, j'entrais en troisième année, c'était la deuxième promotion de la commerciale chez nous. La littéraire avait déjà plusieurs années et avait connu plusieurs finalistes, mais nous, on n'avait même pas encore de finalistes. Et on a voulu quand même envoyer des étudiants beaucoup plus représentatifs aussi à la section commerciale afin d'avoir de bons résultats. Et je crois que les autorités scolaires ne s'étaient pas trompées.
Mais lorsque vous avez commencé l'université, vous êtes allé à la faculté de droit, vous n'avez pas eu des difficultés?
Non, je
vous n'étiez pas complexé par rapport à vos collègues qui avaient fait des études gréco-latines?
Bon, oui, votre question appelle une précision. C'est que quand je suis arrivé à l'université, mon premier choix était de suivre l'économie, parce que je sortais de la commerciale. Mais mon deuxième choix, c'était le droit. Et le troisième choix, parce qu'on nous donnait trois choix, mon premier choix, économie, le deuxième, droit, et le troisième, médecine. Mais les autorités académiques m'ont orienté à la faculté de droit, et je me suis senti beaucoup plus à l'aise à cette faculté, et je me dis, si j'avais fait l'économie ou la médecine, je n'aurais peut-être pas terminé l'université.
Vous vous êtes senti très à l'aise?
Ah, très à l'aise.
Mais vous étiez tout le temps avec vos collègues de l'économie?
Oui, j'étais tout le temps avec eux parce que j'étais un peu curieux de faire ce qu'on peut appeler, avec l'évolution de la science, ce qu'on appelle aujourd'hui, moi-même je me le disais, certains de mes amis me le disaient, m'appelaient économiste par goût personnel. Donc c'était un peu par curiosité que j'étais surtout ou davantage avec les économistes.
Alors vous arrivez à l'université de Bujumbura au Burundi.
À l'époque on appelait ça l'université du Burundi.
Burundi, ouais. Ouais. Vous arrivez à l'université du Burundi, c'était quoi vos premières impressions? C'était la première fois de quitter le pays?
Oui, c'était la première fois de quitter le pays. J'ai quitté Mbujimayi, j'ai pris mon avion. Je prends Air Zaïre qui me prend de Mbujimayi à Bukavu. Et quand j'arrive à Bukavu, je fais la route. Une camionnette nous dépose à Bukavu et de Bukavu, je prends aussi une autre camionnette qui me dépose à Uvira. Uvira, je prends un taxi jusqu'à Bujumbura. Voilà.
Il y avait beaucoup de Zaïrois dans cette
université? Oui, nous étions une centaine. Nous avons trouvé certains aînés et avec notre vague, nous étions environ une centaine de Zaïrois à l'université du Burundi.
Avec qui, par exemple, vous avez été à cette université? Des noms qui vous reviennent
à l'esprit? Qui me reviennent à l'esprit. Je rencontre la même année un ami de longue date, Dédé Kalongi, qui est à Kinshasa, un ancien banquier. Des amis comme Emungu Jean-Marie, qui est à la Sonal. Il y a, par exemple, mon aîné, Tambou Mwamba, mais mon jeune confrère. Hein. Il est mon aîné d'université, mais mon confrère, comme confrère, je suis son aîné. Et puis...
Ils sont nombreux.
Oui, ils sont nombreux.
Alors, M. Richard Bondo, vous êtes marié et père d'un enfant.
Ah oui, père d'un enfant. Oui.
C'est rare, hein, quand même, chez les Congolais.
Oui, bon, Dieu a voulu ainsi, et puis bon. On n'a pas à forcer la nature.
Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie?
Ce que je n'aime pas dans la vie, c'est surtout des distractions inutiles. Je trouve mon bonheur dans, un peu comme le dirait Jacques Attali pour Diderot, le bonheur de penser. Donc je suis tout le temps attaché à des réflexions, j'aime la lecture. Alors je n'aime pas des distractions mondaines. Rarement
Qu'est-ce que vous entendez par distraction mondaine?
Les distractions mondaines, c'est par exemple le week-end, je suis dans une boîte de nuit, je suis dans un bar, mais néanmoins je sors mon épouse au restaurant, on prend mais au restaurant, ça c'est normal, mais ou avec des amis à l'occasion des fêtes de mariage, ou peut-être s'il y a aussi des histoires de deuil, on peut aller sortir, mais me taper des soirées entières à l'extérieur de chez moi, je crois que
ça ne vous ressemble pas, c'est pas vous. Sportif?
Oui, j'aime le tennis, le golf, mais c'est des sports.
C'est des sports des riches, paraît.
Non, non, j'aime ça, mais je ne les pratique pas. Mais j'admire ceux qui pratiquent ce sport, le tennis.
Mais vous aimeriez aussi jouer un jour?
Mais bon, avec mon âge, je ne sais pas si je vais jouer. Si je puis jouer avec mon âge, c'est peut-être le golf.
Vous n'êtes pas si vieux que ça. Moi, j'allais vous proposer de faire le golf.
Ah oui, je crois que le golf irait mieux avec moi, oui.
Alors, on va prendre quelqu'un qui vous connaît très bien, Maître Richard Bondo. La réalisation me signale qu'il est en ligne. Allô, bonjour.
Bonjour, madame.
Bonjour, monsieur. Comment on vous appelle?
Moïse Dieudonné Kalongi Mbouye Kabongo. Les intimes m'appellent Dédé.
Dédé Kalongi.
Oui, c'est moi, madame.
Nous sommes dans ce studio avec Maître Richard Bondo. C'est lui que nous recevons dans Grand Témoin. Vous le connaissez aussi. Comment vous l'avez connu?
Maître Bondo, nous nous sommes connus sur l'université à Bujumbura. L'université à l'époque s'appelait l'université de Bujumbura, ou Rumuri en abrégé.
C'est là que vous avez fait connaissance?
Oui, lui il a fait le droit, moi j'ai fait l'économie.
Et à l'université, il était quel genre d'étudiant?
Oh, un étudiant parmi les élites de l'université, bien appliqué, et chaque fois qu'il y avait des conférences, débats, il ne loupait aucune occasion d'être présent d'abord, et puis d'intervenir efficacement également.
C'était un étudiant assidu?
Oui. Un étudiant assidu, surtout que à l'époque, nous avions eu la fierté d'aller là-bas, d'y étudier, et il n'y avait pas un problème de corruption. Si quelqu'un vous dit qu'il a terminé à Bujumbura, c'est qu'il l'a fait et terminé ses études parce qu'il était intelligent.
Alors, qu'est-ce que vous appréciez chez Maître Bondo, Monsieur Dédé Kalongi?
Sa convivialité et son honnêteté dans les rapports que nous avons eus ensemble. Et je ne lui ai jamais connu un problème avec d'autres étudiants, ni des Rwandais, Burundais, ni des Congolais ou Zaïrois de l'époque, parce que c'était les trois nationalités qui prédominaient en fait sur l'université.
Et après l'université, vous êtes resté en contact?
On est en contact jusqu'à ce jour. Et tenez-vous bien, depuis l'université, on l'a toujours appelé Maître Bonch, alors qu'il n'avait pas encore terminé les études, alors qu'il n'avait pas encore décroché sa licence en droit. Parce qu'aujourd'hui, finalement, c'est le métier qu'il fait, il est avocat.
Vous nous avez parlé de ses qualités, mais quel est le mauvais côté que vous n'aimez pas chez lui?
Mais c'est un bon gars, je ne lui vois pas de mauvaises qualités, sauf que quand on se trouvait entre Congolais et qu'on devait manger, il mangeait un peu plus que nous.
Un peu gourmand, quoi.
Mais ça, c'est pas une mauvaise qualité.
Ce sont les souvenirs de l'université. Mais dans la vie courante, dans la vie d'aujourd'hui, c'est vrai que vous avez fini les études, aujourd'hui vous travaillez. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Quelque chose que vous aimeriez qu'il change?
S'il y avait quelque chose que je lui reprochais, je le lui aurais dit en intimité. Sur les antennes, comme ça, je ne vois rien. Je le trouve correct.
Il n'y a pas de défauts?
Non, bon, c'est un homme, hein. Mais bon, il y a... pas quelque chose que je lui reproche fondamentalement et à laquelle il devait changer. C'est un monsieur correct. Il est loyal en amitié, il est honnête, c'est le plus important. Je ne vois vraiment pas... Il n'est pas un homme volage. Je pouvais vous dire, par exemple, non, il court après des tantines. Je pouvais lui reprocher, mais ce n'est pas le cas. C'est un gars correct.
Ne partez pas, restez en ligne, monsieur Dédé Kalongi. Maître Bondo, ça vous fait quoi d'entendre ces témoignages sur vous?
Je suis ému et que... Mon ami Dédé, bien sûr, on s'est connu à l'université. Lui, c'est un Kinois, il venait de Kinshasa. Et moi, je suis un peu villageois, je venais de Tshilenge. Quand c'est oriental, c'est à 30 km de Mbujimayi, donc je ne suis pas un citadin. Mais il m'a adopté, moi aussi je l'ai adopté. Mais plusieurs, comme il l'a dit, plusieurs de mes compatriotes, des Burundais, des Rwandais, nous qui prédominions sur cette université du Burundi, j'étais avec tout le monde...
Vous ne choisissez pas un Congolais,
non, et j'ai l'impression que c'est surtout le fait d'avoir grandi au village où nous vivions dans une espèce de solidarité qui m'a en quelque sorte habité pour que je trouve en tout le monde un être semblable à moi et que s'il y avait des différences, c'est peut-être des milieux d'origine, mais nous appartenons tous à une seule race qu'on appelle la race humaine. Et comme je suis aussi d'une famille chrétienne, aimez vos semblables comme vous vous aimez, c'est un peu la règle. Et j'étais tout le temps avec tout le monde, filles comme garçons.
Et vous mangez plus que tout le monde.
Bon, non, j'étais très gourmand, mais le problème c'est qu'ils se moquaient de moi parce que j'étais très mince, alors que je mangeais beaucoup, mais je n'étais pas si dodu, mais j'étais mince. Je crois que c'est ça la nature, parce que même maintenant que je travaille, je ne suis pas un peu plus dodu que ça.
Bon. Alors, monsieur
Kamadi... Mais seulement, je souligne, madame, que je suis plus gourmand, je mange... juste, je suis très sobre depuis
un certain temps. Vous avez changé.
Oui, j'ai changé. Bon, c'est pas... Comme on dit, c'est le temps qui a joué, l'âge aussi, bon, je sais pas. Et les responsabilités.
Peut-être ça aussi. Monsieur Kalogi, avant de vous libérer, comme c'est la coutume dans cette émission, on va vous demander de dédier une chanson à Maître Richard Bondo. Laquelle vous lui dédiez?
La chanson de Michael Jackson, We Are the World, We Are the People. parce que je sais qu'il est avocat sans frontières. Je sais que son métier d'avocat, c'est pour défendre les plus démunis, les plus faibles. Eh ben, comme lui-même venait de le dire tout à l'heure, il faut aimer son prochain comme soi-même. Le monde est devenu planétaire. Nous avons donc besoin de nous soutenir les uns les autres. Je lui dédie donc cette chanson-là, madame.
Merci beaucoup, monsieur Kalogi. C'était un plaisir de vous avoir dans cette émission. Maître Bondo, vous avez un petit mot à dire à monsieur Kalogi?
Oui, Dédé, mon cher ami, je retiens que... Lorsque je vous battais sur le plan de la bouffe à l'université, ça vous a marqué. Alors, ça c'est bien. Bon, c'est bien, mais maintenant, comme vous l'avez découvert dans nos contacts depuis un long moment, je suis redevenu sobre.
Un petit mot de décalogie.
Merci, madame. Ça a été un plaisir de participer à cette émission. Merci et bonne journée pour vous aussi et à Maître Bonche également.
Merci, au revoir, bonne journée.
Merci madame, au revoir.
Au revoir. Alors on va demander à Héritier Sidiakala qui est de l'autre côté de la baie vitrée de nous balancer la chanson We Are The World de Michael Jackson. Vous aimez Maître Bonche la chanson?
J'aime la chanson, j'aime bien la chanson. C'est l'un de mes tubes préférés.
Parce que vous êtes avocat sans frontières?
Oui, je suis avocat sans frontières, oui. Un grand réseau qui est installé dans... 22 pays à ce jour, mais il y a d'autres qui sont à la porte pour adhérer.
Ok, on en parle tout à l'heure, mais en attendant, on va écouter la chanson We Are The World de Michael Jackson. Merci, Héritier Sidiakala.
We are the world.
parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune, racontée par ses acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Kouté sur Radio Okapi.
Grand Témoin, le plaisir de vous faire découvrir aujourd'hui Maître Richard Bondo Chimbombo. Il est avocat au barreau de Kinshasa et président de l'ONG Avocats Sans Frontières. On va parler de votre parcours professionnel, Maître Richard Bondo. Et donc, vous commencez à prester au barreau de Kinshasa en 87.
Oui, précisément le 9 décembre. Le jour où j'ai prêté mon serment devant la cour d'appel de Kinshasa. À l'époque, il n'y avait pas de cour. Et c'est depuis cette date que je suis avocat.
Quand vous avez fini vos études à l'université de Burundi, vous êtes revenu directement?
Oui, je suis revenu. J'ai fini en octobre 83. J'ai défendu mon mémoire, je crois, le 3 octobre 83. Et je crois en décembre, le 18, je suis arrivé à Kinshasa.
Qu'est-ce qui vous a attiré dans le métier d'avocat?
Je suis avocat de par ma vocation. C'est-à-dire, j'ai fait les études de droit. Et en deuxième année, on m'appelait déjà maître, comme l'a dit des Calongés. Donc j'avais la vocation de devenir avocat. Je n'aimais ni être magistrat, ni être conseiller juridique quelque part, ni dans des cabinets ministériels. Je voulais simplement être avocat, parler pour les autres, prêter ma voix aux autres, aux démunis, aux faibles, à la veuve et à l'orphelin. Voilà pourquoi...
Moyennant quelque chose, c'est pas un travail que vous faites gratuitement.
Oui, mais le métier d'avocat est honoré et n'est pas lucratif. Elle est libérale, certes, mais elle n'est pas lucrative. Lucrative, c'est ceux qui cherchent, c'est la profession qui recherche les bénéfices. Mais nous, on est simplement honorés. Et nous sommes honorés par rapport à notre barème. Mais il y a des choses, il y a des affaires dans lesquelles je ne perçois pas d'honoraires, mais je plaide lorsque je vois que la personne est dans la condition inhumaine ou infrahumaine. Je prends sa cause pour essayer de payer ma dîme.
27 ans aujourd'hui que vous êtes au barreau de Kinshasa à Gombe. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué pendant ces 27 ans?
Oui. J'ai été en quelque sorte gratuitement radié du barreau.
Justement, j'allais poser la question. Vous avez été radié du barreau?
Il faut que je vous explique. En 1999, une circulaire du Conseil national de l'ordre qui nous a été adressée par le trésorier national nous demandait tous les avocats congolais de payer une contribution à l'ordre national des avocats. Or, la loi organique des barreaux congolais dit que seuls les barreaux sont membres de l'ordre national. Nous, les avocats, nous appartenons à un barreau. Et nous avions initié, donc, avec certains collègues, certains confrères, nous avions initié une pétition adressée à nos autorités ordinales pour dire « Seuls les barreaux peuvent payer, mais nous, on n'est pas membres de l'ordre national. Nous sommes simplement membres des barreaux et les avocats individuellement ne peuvent pas cotiser. Ce que nous payons comme cotisation à nos différents ordres, à nos différents barreaux, ce sont ces derniers, les différents barreaux, qui grignotent quelque chose, un pourcentage qu'on doit donner à l'ordre national. Parce que vous, les barreaux, vous êtes membres. Nous ne sommes pas membres de l'ordre national. » Et c'est cette pétition-là qui, curieusement, a été entérinée par notre Assemblée Générale de notre barreau de Kinshasa-Gombe. Curieusement, en 2001, on va me poursuivre avec mon ami de tous les temps, Maître Jean-Marie Nkwebe-Wassis, pour rébellion. Voilà, madame, nous sommes en 99, l'Assemblée Générale s'est réunie, a entériné, a fait droit à la pétition signée par 156 avocats, mais on en radie deux. Parce que moi, j'étais le premier à avoir signé sur cette pétition. On m'a dit, vous êtes initiateur, donc vous êtes rebelle. Moi, j'ai dit non, je défends les droits des avocats. On m'a radié pour rébellion avec mon ami Maître Nkwebe. En 2001, soit 2 ans après, on nous radie, nous considérions cela comme une injustice. Et lorsqu'on nous a radié, les avocats ont commencé à payer la cotisation à l'ordre national. Mais finalement, tous les barreaux, avant même notre réhabilitation en 2004, tous les barreaux, je ne sais pas si c'était à l'occasion d'une conférence des bâtonniers ou quoi, ont décidé de revenir à la loi pour dire seuls les barreaux peuvent cotiser pour l'Ordre national des avocats parce que c'est les seuls membres de cet ordre. Les avocats individuellement ne cotisent que pour leur propre barreau. Et voilà.
On nous a finalement donné raison.
On nous a finalement donné raison. Et comme ce dossier a sillonné à travers le monde, à l'Union internationale des avocats, à la Commission internationale des juristes, dans toutes les instances internationales, nos autorités ordinales ont senti quand même qu'il y avait une pression qui est exercée sur elles pour accepter notre requête en réhabilitation qui a été diligentée par le ministère d'un brillant avocat congolais, mon confrère Maître Claude Mpunga Yende, qui a été notre avocat et qui a obtenu notre réhabilitation en 2004.
Et c'est quelque chose qui a vraiment marqué
oui,
votre
oui,
parcours
oui, oui,
professionnel.
Ça nous a marqué parce que aujourd'hui, mon excellent confrère et très cher ami, Maître Jean-Marie Nkwebe, a des séquelles, il a failli tomber dans un AVC et il a la tremblote aujourd'hui sans moyen de se faire soigner.
Alors Maître Richard Bondo, vous êtes depuis 1994 président de l'ONG Avocats Sans Frontières RDC.
Oui, RDC qui est membre d'un grand réseau parce qu'en 1994, lorsque nous, avec des confrères zaïrois, nous montions Avocats Sans Frontières, nous ne savions pas qu'il y en avait une en Belgique. Avocats Sans Frontières Belgique existe depuis 92. Il était créé par le bâtonnier Pierre Le Gros, mais nous on ignorait ça.
D'où vous avez eu cette idée-là?
Oui, l'idée m'est venue comme une espèce de mimétisme par rapport aux Médecins Sans Frontières. Alors c'est ainsi que nous aussi, avec certains confrères ici, on dit, et si nous mettions en place une ONG, Avocats Sans Frontières, pour défendre toutes les victimes des violations des droits de l'homme dans notre pays. Rappelez-vous, nous étions encore dans les soubresauts de la Conférence nationale souveraine de la démocratisation de notre pays, et c'est à ce moment-là que nous avons obtenu notre autorisation de fonctionner. Et en 98, sous le ministre Moïse Kongolo, chargé de réformes institutionnelles, justice et garde des Sceaux, que nous obtiendrons la personnalité civile. Nous avons adhéré au réseau Avocats Sans Frontières, qui est distinct d'Avocats Sans Frontières Belgique qui fait cavalier seul.
Avocats Sans Frontières n'existe pas seulement en RDC.
Non, nous sommes dans 22 pays. Bon, si nous comptons Avocats Sans Frontières Belgique, on est dans 23 pays. Mais Avocats Sans Frontières Belgique, c'est de solidariser un peu du réseau pour ses raisons propres. Et c'est comme ça que nous sommes restés dans un réseau avec d'autres pays. Nous sommes installés aujourd'hui, effectivement, dans 22 pays.
Africa.
Mais à la porte... Non. Le siège est à Toulouse, en France. Et nous avons Avocats Sans Frontières Pays-Bas, Suède, Espagne... pour l'Amérique latine, il y a le Pérou, la Colombie, et puis le Brésil, et puis en Afrique, nous sommes très nombreux, jusqu'aux Comores.
Ces autres pays se sont inspirés d'Avocats
Sans
Frontières
de la RDC parce qu'elle est la doyenne du réseau. Nous existons depuis 1994, et la plus née, c'est Avocats Sans Frontières France qui existe depuis 1998.
Pourquoi Sans Frontières?
Sans Frontières parce que c'est ça notre devise. Pour les droits de l'homme, il n'y a pas de différence et pour la défense, il n'y a pas de frontières. Voilà notre devise. Donc les droits de l'homme étant des droits inhérents à tout être humain, nous considérons qu'il n'y a pas de différence entre les hommes au simple motif que nous appartenons à la race humaine. Et pour défendre ces hommes, il n'y a pas de frontières. C'est ainsi qu'Avocats Sans Frontières défend par exemple les victimes des violations des droits de l'homme au Pakistan, au Cambodge, en Colombie, là où même le réseau n'existe pas, mais il y a des avocats volontaires que nous appelons les urgentistes, les avocats urgentistes. C'est-à-dire lorsque il y a un problème de droits de l'homme qui se pose quelque part, un journaliste est menacé, un magistrat est menacé, un responsable défenseur des droits humains sur le plan environnemental ou de n'importe quel secteur, droits spécifiques des femmes ou des personnes vivant avec handicap ou comme par exemple cette fille qui a failli être assassinée au Pakistan. Donc nous, Avocats Sans Frontières, nous pensons qu'il n'y a pas de frontières, nous défendons toutes les victimes et principalement nous assurons la défense des défenseurs des droits humains.
Ce sont les victimes qui viennent vers vous.
Il y a des victimes, qui viennent vers nous ou des organisations qui viennent vers nous. Il y a des organisations, par exemple, lorsque un bâtonnier a des amis dans son pays, Avocats sans frontières fait une chaîne de solidarité et désigne, par rapport à la langue pratiquée dans le pays où se trouve la victime, de désigner l'avocat qui est à même de s'exprimer devant les tribunaux de ce pays-là ou devant les autorités de ce pays-là pour être bien compris et assurer la défense de la victime.
Dans ce cas, c'est gratuit ?
Oui, c'est prise en charge. Non, mais c'est prise en charge. Au moins, la vacation est prise en charge par le réseau Avocats sans frontières.
La victime ne donne rien.
Non, la victime, nous, la priorité, c'est la dignité humaine. La dignité humaine. C'est ça, un peu ce qui nous singularise. Nous ne sommes pas des avocats affairistes. Chez Avocats sans frontières, il y a l'orthodoxie professionnelle de considérer que l'avocat est un métier libéral, mais il n'est pas lucratif. On ne poursuit pas le bénéfice. Nous ne sommes pas des avocats affairistes.
Alors, Maître Richard Bondo, Avocats sans frontières a participé à plusieurs forums. Hein,
oui, plusieurs forums, plusieurs conférences internationales à travers le monde. Pourquoi ? Parce que là où l'on parle de la dignité humaine, il faut que l'avocat soit présent. Pourquoi ? C'est pour connaître peut-être les contextes, connaître les paramètres qui font que dans certains pays, les droits de l'homme sont bâillonnés. Ou bien, pourquoi la victime est menacée et persécutée.
Alors, il y a beaucoup de rapports, Maître Richard Bondo, qui classent la RDC parmi les pays où les droits de l'homme ne sont pas respectés. Vous êtes de cet avis ?
Je suis d'accord et pas du tout d'accord. Pourquoi ? Parce que dans un avenir très proche, on va mettre en place la Commission nationale des droits de l'homme, qui sera un organe technique et consultant auprès des institutions publiques. C'est-à-dire, la Commission nationale des droits de l'homme, à son article 2, vous définit les droits de l'homme. Et a comme finalité, dans cette définition, l'épanouissement de l'être humain. Et voilà pourquoi je dis, si les députés nationaux ont adopté cette loi organique de la CNDH, c'est une institution publique de l'Assemblée nationale. Ça veut dire que les députés sont les premiers défenseurs en RDC des droits de l'homme. Et dire que les droits de l'homme ne sont pas protégés en République démocratique du Congo, j'ai dit, sous le rapport de la loi organique de la Commission nationale des droits de l'homme, sous le rapport des instruments juridiques internationaux ratifiés par la RDC, sous le rapport de notre Constitution dont le titre 2, avec plus ou moins 56 articles qui ne concernent que les droits humains, sur le plan de tes textes, nous sommes respectueux des droits de l'homme. Mais le problème se pose dans la pratique. La pratique, pourquoi ça cloche ? C'est parce que on n'a pas encore chassé l'impunité. Il faut combattre l'impunité et je crois que c'est le rôle de technicien qui est dévolu à la Commission nationale des droits de l'homme. Et pour cela, il faut des personnalités fortes, des personnes expérimentées, dont l'expertise est avérée pour gérer cette institution nationale des droits de l'homme.
Maître Richard Bondo, vous avez suivi plusieurs formations en dehors de la RDC sur le droit de l'homme. Oui. Aux États-Unis, en France, je crois.
Et à l'AE.
À l'AE. Est-ce que vous travaillez aussi avec la CPI?
Oui, je suis conseil à la CPI et conseil également au tribunal spécial pour le Liban.
Ça veut dire
le tribunal spécial pour le Liban, c'est le tribunal créé par le gouvernement libanais avec le Conseil de sécurité des Nations Unies qui siège à l'AE aux Pays-Bas parce que le Hezbollah ne pouvait pas tolérer la présence ou l'installation de ce tribunal à Beyrouth ou sur le territoire libanais. Et c'est le tribunal qui s'occupe de tous les criminels qui ont concouru à l'assassinat de l'ancien Premier ministre Rafik Hariri.
Qu'est-ce que vous entendez par conseil ?
Conseil, c'est avocat. C'est le vocable utilisé dans ces juridictions internationales. Lorsque vous êtes avocat pour ces juridictions, on vous appelle conseil.
Et vous faites quoi concrètement ?
Oui, nous sommes...
La CPI ?
Oui, nous sommes des avocats. Lorsque on est consulté dans une affaire, nous travaillons sur la mise... Aujourd'hui, par exemple, je suis membre d'un groupe de 21 avocat près cette juridiction, choisi parmi 434 en Assemblée générale en 2012 pour la mise en place formelle du barreau près la Cour pénale internationale. Donc j'ai été désigné par mes confrères.
Voilà, Maître Richard Bondo, nous tendons lentement vers la fin de notre entretien. Vous avez participé au dialogue intercongolais à Saint-City.
Oui, à Saint-City, j'étais... Pourquoi ? Parce que en 99, lorsque Massiré est désigné comme facilitateur du dialogue intercongolais. Au sortir d'un atelier national, le premier atelier national de la société civile, tenu au centre Nganda de septembre à octobre 1999, tous les délégués de la société civile, à l'unanimité presque, m'avaient désigné comme le facilitateur interne du dialogue intercongolais. C'était pour, en fait, provoquer le président, feu le président Kabila, à accepter le dialogue intercongolais. C'est ainsi que j'ai travaillé intensément avec le facilitateur Massiré, Ketumile Massiré, qui, au mois de mai 2000, remettra entre mes mains le plan Massiré, dont j'avais la charge de distribuer à tous les acteurs politiques congolais qui étaient sur place. C'est comme ça que j'ai travaillé avec l'ancienne opposition et tous les collègues de la société civile jusqu'à la mise en place de la délégation de la société civile à ce dialogue. Moi, je suis arrivé pas comme délégué parce que je ne pouvais pas en même temps travailler avec Massiré et puis être délégué au dialogue. J'ai travaillé un peu comme conseil des délégués de la société civile au dialogue, et c'est ça, il faut que vos auditeurs l'apprennent, c'est par notre, pour avoir ressenti ça dans ma chair, j'ai proposé à la commission socio-culturelle, c'est par nous, en tant que maître Bondo, conseiller de délégués de la société civile, que j'ai initié l'article qui était inséré dans la constitution de la transition sur le droit à pétition. Et ce droit est devenu effectif jusqu'à aujourd'hui.
Et vous êtes content pour
oui,
ça?
Oui, je suis content pour ça. Ça fait une fierté. Et il faut que vos auditeurs le sachent, que s'il y a le droit à adresser une pétition aux autorités, c'est
l'initiative
de Maître Bondo proposée à la commission socio-culturelle du dialogue intercongolais à Sansik.
Maître Richard Bondo, la politique ne vous a jamais tenté?
La politique me tente. Pourquoi? Parce que si je ne m'occupe pas de la politique, la politique s'occupe de moi. Alors, il faut toujours essayer de s'occuper. Et c'est là que j'ai dit, comme Jacques Attali par rapport à Diderot, le bonheur de penser. Je réfléchis et je pense Congo au jour le jour. Je pense Congo, comment être utile et comment ce pays peut-il être au diapason de tous les États civilisés du monde? Ça, c'est mon interrogation de chaque jour. Elle est quotidienne, elle m'habite. Et lorsqu'on s'interroge comme ça sur le destin de son pays, même si on n'est pas acteur politique, on fait de la politique. Parce que souvent, je suis un peu la lampe témoin qui interpelle les autorités sur la marche de la nation. Et j'ai tout le temps été consulté, et par les étrangers, et par les nationaux, par rapport à la marche de mon pays. Voilà pourquoi je dis, la politique m'intéresse, et moi aussi je m'intéresse à la politique.
Alors une dernière question, avant de mettre fin à notre entretien, par rapport à tous ces crimes commis en RDC, est-ce important aujourd'hui d'avoir un tribunal spécial
Ça c'est mon dada. Ça c'est ce que je... Parce que c'est une résolution du dialogue intercongolais. Et comment voulez-vous que nous soyons rendus à San City, que nous ayons travaillé, qu'on ait levé une option de solliciter la mise en place d'un tribunal spécial pour la RDC et que jusqu'à ce jour, rien ne soit fait? Je crois que c'est l'une des batailles que nous devons engager sous le rapport de la Commission nationale des droits de l'homme ou sous le rapport de nos contacts, c'est-à-dire des autres, le gouvernement, avec ses partenaires extérieurs. On parle en termes de plus de 6 millions de morts. Il nous faut un tribunal spécial qui peut ne pas siéger à Kinshasa. On peut l'installer peut-être ailleurs, comme la Hollande abrite presque tous les tribunaux spéciaux. On peut aussi installer notre tribunal là-bas pour que justice soit faite. La réconciliation, oui, mais pas l'impunité.
Un dernier mot peut-être à tous ces auditeurs de Radio Okapi qui nous suivent en ce moment partout en RDC et même à l'étranger grâce à notre site internet www.radiookapi.net. Maître Richard Bondo, est-ce que vous êtes tenté de diriger la commission de droits de l'homme qui sera mise en place bientôt en RDC?
J'ai été élu par mes pairs avec Madame Nathalie Yoka comme le ticket des ONG des droits de l'homme à l'Assemblée nationale, lorsque nous y serons. Mes collègues m'ont désigné, c'est que le profil semble répondre à la charge.
Merci beaucoup, Maître Richard Bondo. C'était un plaisir de vous recevoir dans Grand Témoin. Merci à tous les auditeurs de Radio Okapi qui sont toujours très attentifs et qui répondent toujours au rendez-vous des dimanches 12h15, heure de Kinshasa, pour suivre Grand Témoin. Merci également à Héritier Sidiakala qui était à la technique, au micro Kelly Nkouté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiokapi.net. Bon dimanche chez vous et bonne suite du programme sur la fréquence de la paix.
Merci, madame.